Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans En toute bonne foi. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir ce soir Bernard Balin. Bonsoir monsieur.
Bonsoir madame.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes ancien professeur d'histoire, évangélisateur
Oui.
passionné et passionnant. Vous avez
Je sais
reçu
pas.
le prix du cardinal Krent en 2003 pour l'ensemble de votre œuvre. Aujourd'hui, vous êtes à nos côtés pour nous parler de ce livre que vous avez coécrit avec votre épouse, Angélique, qui s'intitule De Fatima à Pontevedra aux éditions du Parvis. Nous parlerons de la Trinité, outre les messages et les demandes de Fatima, et c'est surtout celle de Pontevedra et Tyr. Alors, monsieur, pourquoi dites-vous que la Vierge Marie est celle qui est au cœur même de la Trinité?
Parce que tout simplement, elle est la fille du Père, nous dit l'Écriture, la fille puis née du Père après le Fils, elle est l'épouse mystique du Saint-Esprit et la mère exemplaire de Jésus en tant qu'homme.
Donc,
Voulu par le Père, sanctifié par l'Esprit Saint, Esprit de vérité et sanctuaire de l'amour, mère du Rédempteur, associée unique à la rédemption.
elle est un trait d'union entre Dieu et nous.
Tout à fait, et le meilleur qui puisse exister.
Alors, cette place qu'occupe la Sainte Vierge est-elle venue au fil du temps ou déjà du temps de Jésus, elle avait une place spéciale?
Alors, si l'on en croit justement les Écritures, il faut assurer que Marie a été voulue par Dieu de toute éternité. Il l'a voulue pour être la nouvelle Ève, sans aucune attache avec le péché. On dit qu'elle a été indemne du péché. Et comme nouvelle mère du genre humain, afin de réparer la désobéissance d'Ève, ceci en enfantant Jésus par l'opération surnaturelle du Saint-Esprit. Et cette réalité n'a fait que grandir avec le temps. Ce qui fait que Marie n'est pas connue jusqu'au moment où elle est désignée pour être la maman de Jésus à Bethléem, mais son rôle apparent et réel ne commence qu'à partir de Bethléem.
Et alors, au fil du temps, donc elle est proclamée Théotokos, Concile d'Éphèse.
Tout à fait, oui.
Oui.
Théotokos, donc mère du Christ, mère
mère
de l'Église, jusqu'à Paul VI l'a proclamée mère de l'Église et mère du genre humain. Et l'histoire de l'Église n'est qu'un défilé progressif, puisque Marie est confrontée toujours à ce grand rôle, si beau rôle de l'humilité, mais toute l'Église est une lente mais sûre marche vers l'élévation progressive de Marie pour en faire ce que Dieu a voulu être, c'est que de son humilité, elle devienne celle qui est vraiment l'une des maîtresses de l'histoire humaine pour la conduire au pied et au cœur de Jésus-Christ.
Oui. Alors, au fil du temps, il y a le dogme de l'Immaculée Conception
Oui,
par
en
Pie IX,
1854.
voilà.
Oui.
Puis en 1950, l'Assomption.
Tout à fait, c'est Pie XII qui l'a proclamé ainsi.
Voilà. Et puis Paul VI, Notre-Dame Mère de l'Église, comme vous le disiez.
Oui.
Il y a eu Marie Corédemptrice, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais qui finalement
Oui.
a été mise de côté pour un moment, en tous les cas.
Oui, c'est un problème, sans vous interrompre, c'est un problème délicat. Pourtant,
Oui.
il y a des livres qui existent là-dessus et qui semblent être positifs, avec en plus le l'Universitat du Saint-Siège. Et donc, beaucoup de mes amis ont été étonnés de la mise entre parenthèses de ces dogmes que l'on attend. Mais il faut toujours, évidemment, se conformer à l'Esprit-Saint en obéissant à l'Église et en attendant des jours meilleurs, si Dieu veut que ces dogmes attendus soient proclamés. On en avait parlé nous-mêmes au Saint-Père Jean-Paul II quand on l'a rencontré, donc il y a quelques années, bien sûr, et on lui avait porté un grand nombre de suppliques en faveur de cette proclamation des dogmes attendus en France et ailleurs. Et donc il a souri et il a dit simplement ceci: j'ai commencé à en parler dans l'encyclique. C'est une encyclique sur la Sainte Vierge. En souriant, vous connaissiez peut-être combien Jean-Paul II était bon et souriant, mais
oui.
malicieux, entre guillemets. Et donc, il n'est pas allé plus loin, il n'avait pas à nous le dire, mais enfin, il n'était apparemment pas contre cette évolution vers ce que l'on attend.
En tous les cas, on sait que l'Église est patiente, donc à nous de l'être aussi.
Tout à
Alors,
fait.
vous dites qu'elle provoque le premier miracle de Jésus aux noces de Cana.
Tout à fait.
Alors, ce mot provoqué m'a interpellée parce que est-ce que ça veut dire que ce n'était pas encore dans le plan de Dieu?
Donc, jusqu'ici, Marie est strictement inconnue puisque la vie de Jésus, enfant et adolescent, n'a été connue de personne, sinon on l'aurait su. Et donc, c'est à la fois, me semble-t-il, la manifestation conjointe de Jésus en tant que Messie, et futur sauveur attendu, et du rôle de Marie. Et c'est pour cela, me semble-t-il, qu'en poussant les gens à avoir confiance, les invités de la table à avoir confiance en Jésus, alors qu'on manque de tout, parce que le vin, c'est un symbole de joie dans un mariage, c'est embêtant quand il n'y est pas, apparemment. Et je crois qu'il faut y voir ici le début, me semble-t-il, de ce rôle de Jésus, d'intercesseur du Père pour le salut du genre humain, en le nourrissant du viatique eucharistique et qui comporte non seulement le pain, on verra ça à la Sainte Cène, mais aussi le vin qui sera son sang. Et donc il semblerait que ce vin, donc obtenu par l'intercession de Marie, alors qu'elle n'a pas strictement demandé, elle a fait simplement un signe, elle a fait un regard, elle a donné un regard, un geste, adressez-vous à Jésus, et elle en même temps lui dit, Jésus, ils n'ont pas de vin, et aussitôt Jésus s'exécute, évidemment, il comprend tout, il sait tout, et non seulement il donne le vin nécessaire à la noce, mais l'Écriture, l'Évangile dit qu'il en donna beaucoup, puisqu'il y avait, je crois, une dizaine de jarres qui contenaient des centaines de litres, et c'est le symbole, évidemment, des grâces à profusion que le Seigneur donnera tout au long de ces 3 ans de comment dirais-je, d'exercice de sa messianité.
Oui. Vous savez que Monseigneur Laurentin est allé encore plus loin que vous parce que lui, il dit que Marie arrache le premier miracle de
oui,
Cana.
Sans doute.
Oui, oui, oui. Alors, Marie connaît la joie, vous le montrez bien dans votre livre, mais nous l'oublions souvent car nous pensons davantage à sa souffrance. Est-ce que je me trompe en disant qu'on associe à tout Marie à tout ce qu'elle porte?
Oui, tout à fait, et sa souffrance, surtout dans les temps que nous vivons, paraît oubliée, pour ne pas dire escamotée. C'est une joie si grande et parfaite, bien sûr difficile à transcrire. C'est la joie de la pleine vie surnaturelle qui l'habite, même au temps de son silence, toute tournée pour faire la volonté trinitaire. La joie d'accomplir cette volonté sans jamais se regarder elle-même, bien sûr.
Oui.
Enfin, on le comprend, Marie est l'humilité par excellence derrière son fils. La joie ineffable d'enfanter, bien sûr, le Fils de Dieu, de le contempler, de l'écouter et de le suivre jusqu'au bout et de le voir ressusciter. Alors, évidemment, il faudrait des heures et des livres pour parler de la joie de Marie, mais elle est toujours discrète, elle est toujours pleine de l'Esprit Saint, elle ne s'épanche pas de travers, si je puis dire, mais c'est une joie contenue, une joie mystique, une joie surnaturelle, c'est pas quelqu'un d'expansif, au sens où nous l'entendrions aujourd'hui. Mais Marie, elle a un cœur tellement extraordinaire qu'elle a une joie sereine et qui la comble complètement en sachant qu'elle fait la volonté de son fils.
Alors, vous nous rappelez, monsieur, que le cœur de la Vierge Marie ne peut plus souffrir, mais il ne peut rester étranger aux tribulations humaines et ecclésiales du cours de l'histoire. C'est un vrai paradoxe, n'est-ce pas?
Oui, le mal reste un mystère, bien entendu. Marie a été confrontée, elle comme nous, mais elle a été aidée et inspirée par l'Esprit-Saint, parce qu'elle a offert sa tribulation intérieure en la sublimant par un surcroît de prières, de foi et d'espérance qu'elle nous donne comme exemple après le Christ, bien sûr. Et nul n'a autant souffert qu'elle, parce que investie de la mission qu'elle avait, inspirée par l'Esprit-Saint tel qu'elle l'était, elle a suivi pas à pas, cœur à cœur, son fils jusqu'à la croix, jusqu'à l'ensevelissement. Et Marie, donc, a énormément souffert. Mais son amour extraordinaire à côté de Jésus, transpercé, lui a permis quand même de participer hautement à la victoire de la joie des joies qui sera celle de la résurrection.
Oui. Alors, ce cœur transpercé dont vous parlez, donc évoqué avant Fatima, n'est-ce pas? Et dans plusieurs apparitions où elle montre son cœur douloureux. Alors, pourquoi l'évoquer de nouveau, ce cœur douloureux? Pourquoi y revenir?
Parce que le monde contemporain, depuis un siècle ou deux au moins, et davantage, mais enfin, nous savons bien qu'à côté de Jésus, il y a toujours le prince de ce monde, c'est-à-dire celui qui essaye de contrarier le plan du Père. Et donc, on voit souvent ensemble les cœurs de Jésus et de Marie qui sont impliqués pour limiter ce mal. Les mystiques médiévales y sont souvent allusion. Si je prends l'exemple de Sainte Brigitte qui cite Marie, célèbre ceci, elle disait « Jésus et moi, nous nous aimions si profondément sur terre que nous étions comme un seul cœur. » Nous avons opéré le salut de l'homme, pour ainsi dire, avec un seul cœur. C'est ce que Marie a dit à Sainte Brigitte. Elle n'a cessé ensuite de montrer son cœur douloureux, symbole de sa douleur mystique, périodiquement et de plus en plus souvent, à nos époques, j'y reviens donc, j'y viens si troublé. Soit son cœur seul, soit associé à celui de Jésus, comme on le voit sur ses sacramentaux qu'on appelle les médailles, la médaille miraculeuse. en 1830, quand elle visite la sœur Catherine à Paris, donc elle lui enseigne la médaille miraculeuse, ou sur les scapulaires, qui sont un symbole de pureté, et qu'elle invite périodiquement à porter en diverses apparitions. Le samedi 19 septembre 1846, sur les hauteurs de la Salette, dans notre région, deux jeunes bergers voient surpris Marie, assise, pleurant les péchés du monde, symbolisée par une lourde chaîne autour de ses épaules. Tous les chrétiens devraient le savoir. Disant ceci, « Depuis le temps que je souffre pour vous, à Pontmain, je vais très vite encore parce qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner, mais je prends les plus significatifs et ceux qui devraient être le plus connus par les chrétiens d'aujourd'hui. À Pontmain, le 17 janvier 1871, alors que la première guerre franco-allemande fait rage, comme tout le monde le sait, elle dévoile sa douleur intime en découvrant sur son cœur celle de Jésus encore crucifié, c'est-à-dire qu'elle avait un crucifix sur sa poitrine au niveau même de son propre cœur. Et il y aura d'autres exemples que je ne puis citer pour ne pas allonger. Mais ce qui revient à dire que le sommet contemporain reste malgré tout Fatima, où Notre-Dame demande à l'Église de vénérer et consoler son cœur souffrant mystiquement. Autrement dit, en résumé, malgré le rôle intercesseur de Marie, malgré la souffrance rédemptrice de Jésus, le monde ne s'est pas converti, il est toujours à convertir, et aujourd'hui plus que jamais, on le verra vers la fin des questions qui m'ont été posées. Et donc cela nous montre non seulement la rédemption toujours à l'œuvre, mais cela nous montre combien Marie est plus utile, pour ne pas dire nécessaire que jamais, en tant qu'intercédente auprès de son fils pour limiter le plus possible ce problème du mal qui taraude l'Église et toute l'histoire de l'humanité.
Alors nous allons faire une petite pause de quelques petites secondes et nous nous retrouvons juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, vous dites que lors de la troisième grande vision des 12 et 13 juillet 1929 à Tuy, Sœur Lucie voit qu'il y a une vraie union du cœur de Jésus et de Marie. Que faut-il comprendre par là? D'abord, quelle est cette vision et que faut-il retenir de ce message?
Vous me parlez de l'apparition de Tuy, je crois.
Oui, des 12 et 13 juillet.
Voilà, alors là, nous sommes en plein dans le sujet que nous étions abordé,
absolument,
bien entendu. Alors, donc, Tuy, c'est la phase terminale. Hein, c'est la phase terminale des apparitions de Fatima.
Mais comme nous parlions du cœur, ça me semblait nécessaire d'y aller.
Voilà. Alors, donc, il y a eu les bergers en 1916, le corps des six apparitions de 1917. Il y a eu, donc, Pontevedra. C'est l'objet principal.
Alors, on y viendra un peu plus tard. Mais là, vraiment, les cœurs, l'union du cœur de Jésus et de Marie à Tuy.
Voilà. Alors, à Tuy, donc, c'est une apparition impressionnante, une théophanie impressionnante. Nous sommes donc en 1929. Et donc, à ce moment-là, quand elle prie, un jour qu'elle a obtenu, ou plutôt un soir qu'elle a obtenu l'autorisation auprès de la Mère supérieure, Sœur Lucie, qui est donc devenue carmélite à ce moment-là, se trouve donc devant ce sacrement à minuit, dans l'obscurité. Elle prie, elle adore, elle demande, elle intercède, etc. On peut deviner tout ce qui se passe dans ce cœur de religieuse déjà si sainte. Oui. Et voici que tout à coup, à minuit, la chapelle du Carmel s'illumine complètement et elle voit une grande croix de plusieurs mètres avec le Christ et son côté ouvert, transpercé et laissant tomber de l'eau et qui jaillit à côté et tombe apparemment par terre. On ne voit pas des anges qui recueillent peut-être ce précieux liquide, évidemment, ce saint liquide. Au-dessus de la tête de Jésus, il y a le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Et au-dessus encore, on voit le Père éternel avec les bras étendus qui fait comprendre qu'il donne encore aujourd'hui son Fils au monde dans la douleur, comme s'il était continué depuis le calvaire, de telle sorte que ce monde est toujours à sauver, à racheter. Et sur le côté gauche, c'est-à-dire le côté droit, de cet ensemble, Père, colombe de l'Esprit Saint et Jésus, on voit Marie qui, dans sa main gauche, tient un cœur ensanglanté et entouré d'une couronne d'épines, comme elle l'a déjà montré d'autres fois avant, et elle le montrera plus tard aussi. Et dans l'autre main, la main droite, il y a le chapelet. Et donc, Lucie se précipite discrètement, évidemment, à genoux, en adoration, pour contempler cette apparition dans laquelle il est dit que la Russie donc l'un des thèmes fondamentaux
oui.
Du message de Fatima, doit être consacré. C'était annoncé, ça. Mais Lucie ne savait pas la date. Mmh. Dieu est le maître du temps et de l'histoire, nous le savons. Mais donc, c'est donc la voix lui dit, le moment est venu où je demande au Saint-Père et à l'Église de bien vouloir consacrer la Russie à mon cœur immaculé pour, je sais pas tous les mots exacts en tête, mais enfin, l'essentiel, c'est ça, pour la sauver et donc faire en sorte que l'athéisme programmé, comme chacun le sait, disparaisse, cette terre aimée de Dieu, comme toutes les autres terres de notre planète.
Alors,
alors Sœur Lucie, je ne veux pas vous interrompre, mais Sœur Lucie n'aura de cesse ensuite de supplier les papes jusqu'à ce que, jusqu'à ce que Pie XI, Pie XII, Paul VI et Jean-Paul II surtout puissent acquiescer à cette demande si réitérée de la part de Dieu et de Marie.
Est-ce qu'on peut dire que cette demande a été effectuée ?
Alors, c'est un problème délicat. Délicat parce que les papes sont prudents par nécessité, par inspiration d'Esprit Saint, mais parfois sont-ils pas trop timides aussi, puis on n'a pas le droit de juger, bien entendu. Mais jusqu'à Jean-Paul II, pour faire vite, on ne peut pas dire honnêtement que la Russie ait été consacrée comme la Vierge le voulait.
Oui.
Parce que l'essentiel, c'est que ce que voulait Dieu, c'est que le pape, qui est le chef de l'Église, n'est jamais qu'un évêque, qu'on me pardonne, mais n'est jamais qu'un évêque qui est élu pape.
Oui.
Donc le ciel voulait que toute l'Église consacre avec et autour du pape la Russie, vu l'énormité du problème, parce que l'Église est responsable de tout le peuple de Dieu. Et l'Église, elle est dirigée pas seulement par le pape, mais collégialement par tous les évêques du monde. Et donc ça, les papes n'ont pas pu l'obtenir, il faut dire la vérité comme elle est. Même Jean-Paul II, je le sais parce que j'ai bien travaillé ces questions, Jean-Paul II a fait tout ce qu'il a pu pour avoir collégialement tous les évêques avec lui, qui ne sont pas tous venus loin de là à Rome. Tous n'ont pas voulu, il faut le dire, c'est la vérité, exécuter la demande. La plupart, oui, mais pas tous. À tel point que Jean-Paul II a dû s'y reprendre à deux fois. La deuxième fois, c'était en 84, le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Il était à genoux avec sa chasuble violette donc sur le parvis de Saint-Pierre. Et là, il a obtenu un assentiment plus global des évêques du monde, mais pas tous encore, vous comprenez ?
Oui.
Est-ce qu'il aurait fallu un concile ? Je n'en sais rien, parce que là, il faut vraiment venir. Mais donc, Jean-Paul II a dit maintes fois qu'il avait fait tout ce qu'il a pu sur place à Fatima, où j'ai été plusieurs fois pas très loin de lui pour assister, voir, et puis à Rome, donc, pour consacrer cette Russie. Et la preuve que quand même ça a été utile, si vous voulez, c'est que quelques années après, divine surprise, en 1989, M. Gorbatchev et son épouse, qui étaient très marqués par sa visite à Rome,
oui,
et qui a joué un rôle important et influent auprès de son époux, la Russie, à travers ce couple, a lâché le communisme, et il a éclaté, comme on le sait, et donc ça a été quand même l'un des grands bienfaits de cette consécration, qui, avec tous les efforts faits par Jean-Paul II, et aussi ses prédécesseurs, même s'ils n'ont pas tous réussi, mais a abouti quand même. Voilà, alors actuellement, oui, la Russie, elle est ce qu'elle est, mais enfin quand même, elle est débarrassée de... débarrasser de ce carcan qu'était l'athéisme officiel, qui était très nocif sous Staline, etc.
Alors, vous parlez beaucoup de la Trinité, on vous sent très attaché au fait que le rôle de la Trinité est fondamental pour instaurer un culte envers la Vierge Marie, spécialement sous le sceau de sa maternité humaine, dites-vous. Pour vous,
oui,
c'est la grande révélation du message de Fatima.
Oui, ça c'est sûr, parce qu'à chaque venue de la Vierge, à chaque page, on retrouve ce mystère grandiose de la Trinité qui culmine à Tui, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la grande révélation de Fatima, qui est comme une résurgence de la lumière, n'est-ce pas ?
Oui.
Révélation donnée dans une région, d'ailleurs, géographiquement vivement ensoleillée. Tout le monde connaît quand même peu ou prou la beauté du Portugal, surtout l'été. On sait combien les enfants souffraient de la chaleur et presque de la lumière. Alors, évidemment, à part l'enfer, il faut bien le dire, mais sans plaisanter, tout est éclatant à Fatima. Lumière de la vérité sur l'homme qui ne peut rien sans Dieu, qui ne peut rien sans l'Eucharistie, les vertus de l'espérance et les autres vertus, sans l'aide maternelle de la Vierge, chemin vers le Sauveur, la médiation que celle-ci, chemin privilégié vers le Sauveur et sa médiation. Fatima, c'est comme une illustration de l'Apocalypse de Saint Jean, montrant le grand combat entre la Vierge et le dragon, je rappelle quelques versets célèbres. Là est la vraie révélation de Fatima, la femme enceinte terrassant le dragon, comme l'a prédit le début de la Genèse. Autrement dit, depuis le début de l'écriture jusqu'à Fatima et jusqu'à la fin du monde, Marie, à cause de son humilité et de sa bassesse, entre guillemets, a été choisie comme une intercédente exceptionnelle et unique pour obtenir de son fils que le monde se convertisse. Et on n'est peut-être pas au bout de nos peines, mais toujours est-il que la Providence, a toujours à l'œuvre avec Jésus Rédempteur et Marie, continue ce chemin de lumière pour essayer de nous sortir de ces ténèbres qui d'ailleurs nous ont été montrées à travers les horribles visions de l'enfer que les enfants ont éprouvées au mois de juillet. Ce thème de l'enfer qui revient plusieurs fois dans le message officiel de Fatima et qui ont épouvanté donc les enfants et à travers eux, on peut dire, l'univers. Et il n'y a pas que Dante qui en a parlé, hein, n'est-ce pas, de ce fameux problème de l'enfer. Donc la Vierge est venue pour nous sauver, nous entraîner au ciel, mais elle le dit elle-même plusieurs fois, pour nous arracher à toute possibilité de tomber dans l'antre de l'enfer.
Alors, il y a cette fameuse dévotion des 5 premiers samedis du mois, qui est difficile, je trouve, à mettre en place. Je le vois à titre personnel. Je suis quand même étonnée que ça ne prenne pas plus d'ampleur. Je suis même tombée sur des prêtres qui savent pas du tout ce dont il s'agit, alors que je peux vous dire que ce sont des prêtres érudits, profonds, priants. Et récemment, l'un d'entre eux m'a dit « je sais pas trop ce que c'est que ce truc-là ». Donc j'étais quand même assez étonnée. Et je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent cette dévotion. Il faut absolument la faire connaître. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ?
Oui, je vais tâcher de pas être long parce que c'est quand même délicat.
Alors, nous avons 4 minutes.
4 minutes. Mais écoutez, donc, la Vierge Marie, plutôt Jésus, à travers elle, est venu, quel terme employer, nous avertir que Jésus ne pouvait plus supporter les atteintes à la dignité et au rôle de Marie dans l'histoire de l'Église. Hein, pas de blasphème contre l'Immaculée Conception, pas de blasphème contre sa virginité perpétuelle ni sa maternité divine et humaine.
Oui.
Pas d'outrage pour ceux qui blasphèment Notre-Dame dans ses saintes images et tous ceux qui enseignent aux enfants le mépris de cette mère qui est la mère universelle. Voilà les cinq blasphèmes que le Seigneur veut voir disparaître de la surface de la terre pour l'amour et la reconnaissance envers sa très sainte mère.
C'est pour ça qu'il y a 5 samedis consécutifs, toujours le premier samedi du mois. Oui.
C'est ça. Alors le samedi, aussi, il y aurait toute une mission à faire là-dessus. Parce que le samedi, c'est le jour de Marie.
Oui.
Le samedi, c'est c'est le jour anniversaire de la rédemption, évidemment. Mm-hmm. C'est le samedi et le vendredi saint. Et donc, le samedi, c'est en relation aussi avec le scapulaire que Benoît XII avait reçu une visite de la Sainte Vierge pour faire enclencher dans l'histoire de l'Église le port du scapulaire, qui est un gage de salut. Donc, il y a beaucoup d'éléments symboliques, si vous voulez, qui se rattache au samedi, c'est le jour de Marie.
Oui.
Et donc, s'y est attachée cette dévotion que le Seigneur et elle sont venus apporter à Fatima, exprimée donc au fil des apparitions, et c'est quelque chose qui est en parallèle, il ne faut pas l'oublier de le dire, parce qu'on n'a pas pu tout dire aujourd'hui, mais tout est parallèle aux demandes de Jésus à Parelle Moniale pour le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus va pas sans Marie, et inversement. Et donc, il faut, pour réparer les péchés du monde et faire avancer celui-ci vers le ciel, détourné de l'enfer, il faudrait, si les gens le comprennent, si les prêtres et les évêques veulent bien croire à Fatima, qui est un fait d'église, qui est reconnue,
oui,
il faut inciter les chrétiens, déjà au minimum, à bien vouloir observer 5 samedis consécutifs, en honneur tout ce que j'ai dit, donc se confesser, avoir la contrition, communier avec les dispositions requises, dire le chapelet et rester 15 minutes en esprit de, pas d'adoration, mais en esprit de, comment dirais-je, d'amour, de compagnie avec Notre-Dame pour obtenir de son cœur immaculé la conversion progressive du genre humain. Voilà comment on peut résumer très brièvement les premiers samedis du mois, mais le Seigneur y tient, la Vierge y tient beaucoup, et si l'Église n'avance pas assez vite, c'est parce que, justement, la dévotion des premiers samedis du mois n'est pas assez pratiquée dans le monde et dans l'Église. Il faut bien le dire, ça.
Qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir notre curé pour lui en parler? Et sur quoi pouvons-nous nous appuyer? Il y a différentes associations qui existent et qui souhaitent vraiment diffuser cette dévotion. Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Écoutez, en principe, les ordres religieux, il en reste encore, Dieu merci, les ordres religieux, notamment tout ce qui a trait au Carmel et aux Carmélites, avec les aumôniers correspondants, devraient être à même de propager cette dévotion, évidemment. Il faut aller vers les prêtres les plus instruits, les plus obéissants, si j'ose dire, les plus en faveur de ce phénomène, phénomène religieux, donc oui. de conversion. Les autres ne connaissent pas toujours Fatima. C'est un problème délicat. Vous savez, nous sommes confrontés depuis 30 ans à cette affaire. Nous essayons, nous, en ce qui nous concerne modestement, envers nos conférences, livres, etc., de mobiliser oui. le peuple chrétien, mais nous ne sommes que ce que nous sommes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas mépriser quand même les grands dons que Dieu nous fait pour sortir l'humanité de la torpeur, c'est le moins qu'on puisse dire, dans laquelle il est aujourd'hui. Bien Donc c'est, si on observait peu ou prou dans l'Église cette dévotion des 5 premiers samedis du mois qui associe les privilèges acquis par la rédemption du Christ et la co-rédemption de Marie, co-rédemption entre guillemets, si on écoute ces demandes, eh bien le monde se portera mieux, il se convertira et progressivement on arrivera vers ce triomphe qui est attendu, qui a été promis par Jésus, par Marie. On attend le triomphe, mais quand il faut quand même répondre aux conditions posées par le ciel.
Mais écoutez, je vous remercie, Monsieur Balin, Bernard et Angélique Balin, pour le livre de Fatima à Pontevedra aux éditions du Parvis. J'invite tous nos auditeurs à approfondir en lisant votre livre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et puis, chers auditeurs, cette dévotion, écoutons ce que les cœurs de Jésus et Marie nous demandent. Donc, diffusons-la. Bon dimanche et à dimanche prochain.
Bon dimanche à vous et merci de votre appel.
Merci, monsieur. Au revoir.